Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La Germanie, ou de origine et situ Germanorum, est un bref traité de Tacite composé vers 98 après Jésus-Christ. Dans cette édition bilingue des Belles Lettres, le texte latin est accompagné de la traduction de Jacques Perret. L'ouvrage relève de la géographie ethnographique antique, il présente les territoires situés au-delà du Rhin, puis décrit les origines supposées, les pratiques collectives et les nombreuses tribus germaniques connues des Romains. Mais son intérêt dépasse largement une simple enquête descriptive. Sénateur et historien, Tacite écrit alors que Rome surveille une frontière septentrionale militairement sensible. Peu après le traumatisme de Teutobourg et durant les inspections de Trajan, son tableau associe informations héritées de sources diverses, catégories et réflexions politiques. Les Germains y apparaissent à la fois comme des adversaires redoutables et comme un contrepoint moral à une Rome que Tacite juge exposée au luxe, aux rivalités et au relâchement des mœurs. La lecture exige donc de distinguer les données historiques de la construction littéraire et critique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une ethnographie romaine façonnée par la distance et par les sources indirectes. Tacite commence par définir le cadre physique de la Germanie, ses fleuves, ses forêts, son climat et ses frontières. Il passe ensuite des traits généraux au peuple particulier selon une organisation qui rappelle les enquêtes géographiques de la littérature antique. Cette architecture donne une cohérence à un espace que Rome ne domine pas entièrement et ne connaît que par les expéditions, les guerres, les échanges et les récits rapportés. Le lecteur moderne doit cependant éviter de recevoir ce texte comme un relevé ethnographique au sens actuel. Tacite ne mène pas une observation de terrain systématique. Il sélectionne, condense et interprète des informations afin de produire une image intelligible pour un public romain. Les catégories de peuple, de coutumes et de caractère collectif répondent aux habitudes intellectuelles de son temps. Certaines descriptions peuvent conserver des informations précieuses sur les groupes installés au nord du Rhin, tandis que des généralisations ou des anecdotes relèvent davantage du procédé littéraire. Cette tension constitue la valeur du traité, il permet de comprendre simultanément une partie des savoirs romains sur les Germains et la manière dont Rome transformait ses marges en objet de pensée. Une édition latin-français aide à percevoir la concision, les contrastes et les choix de vocabulaire qui portent cette représentation. Deuxièmement, le portrait des Germains sert de miroir critique à la société romaine. La Germanie ne sépare jamais totalement la description des autres peuples de la réflexion sur Rome. Tacite attribue fréquemment aux Germains une sobriété, une vigueur guerrière et une franchise qui contrastent avec les vices qu'il associe à la vie romaine. Son éloge de la monogamie et de la sévérité des usages matrimoniaux est particulièrement révélateur. Il ne cherche pas seulement à noter une différence sociale, mais met implicitement en cause la corruption des mœurs dans les élites impériales. Ce mécanisme ne signifie pas que les Germains deviennent un modèle sans réserve. Tacite souligne aussi la violence, les beuveries, les querelles et les pratiques qu'un Romain peut juger rudimentaires. Le peuple décrit reste donc barbare dans le cadre mental antique, mais il possède des vertus que la puissance romaine risque de perdre. Cette ambivalence est au centre du livre. Elle interdit de le réduire soit à une admiration naïve, soit à un discours uniquement hostile. La comparaison morale permet à Tacite de parler de la décadence civique, des effets du luxe et de la fragilité politique de Rome, sans rédiger un traité directement centré sur les institutions impériales, la périphérie devient ainsi un espace de critique intérieure. Troisièmement, la guerre organise la liberté, le prestige et la cohésion des communautés. Chez Tacite, la guerre est moins un épisode qu'un principe structurant de la vie collective. Les assemblées, les chefs, les compagnons armés et la recherche de gloire définissent des rapports sociaux fondés sur la réputation personnelle. Il insiste sur les liens entre un chef et sa suite. Guerrière, le prestige du premier dépend de la valeur de ses hommes, tandis que ceux-ci attendent de lui générosité, protection et occasion de se distinguer. Cette présentation explique pourquoi les Germains peuvent apparaître comme un danger durable pour Rome. Même lorsqu'ils ne forment pas un État unifié, leur efficacité tient à des solidarités locales, à une culture de la bravoure et à la capacité de rassembler des combattants autour de chefs reconnus. Tacite observe aussi que la délibération politique est liée au port des armes et que la communauté évalue publiquement les conduites. Il ne faut pas y projeter des institutions nationales modernes, le traité évoque des peuples multiples, parfois alliés, parfois rivaux. Néanmoins, il identifie clairement une énergie militaire que les Romains ne doivent pas sous-estimer. Dans le contexte frontalier de la fin du 1er siècle, cette analyse nourrit une question concrète : faut-il contenir, combattre ou conquérir ces populations établies au-delà des limites impériales ? Quatrièmement, famille, mariage hérite des coutumes décrites comme normes collectives. Le traité accorde une place importante aux règles qui encadrent la famille, le mariage, la sexualité, les funérailles et la religion. Tacite présente le mariage germanique comme généralement monogame et protégé par une forte réprobation de l'adultère. Il met aussi en avant la symbolique des présents échangés entre époux, notamment les armes et les biens liés à la vie guerrière. Ces éléments servent son opposition avec les mœurs romaines, mais il montre également que les relations familiales sont pensées comme un enjeu public de stabilité et de continuité. La religion apparaît sous des formes variées sanctuaires dans les bois, interprétation des signes, divination et autorité particulière de certains prêtres. Tacite tente à expliquer ces pratiques par des catégories romaines, tout en soulignant que les Germains ne représentent pas leurs dieux dans des temples comparables à ceux de Rome. Les funérailles, décrites comme sobres, prolongent le thème de la simplicité morale. Ces passages sont utiles parce qu'ils déplacent le regard au-delà de la guerre et des frontières. Ils révèlent une société que Tacite cherche à saisir à travers ses institutions quotidiennes, mais ils exigent une lecture critique, car les coutumes rapportées sont souvent généralisées à partir de peuples très divers et insérés dans une démonstration morale. En dernier lieu, les notices sur les tribus révèlent une frontière mouvante plutôt qu'un pays unifié. Dans la seconde partie, Tacite énumère et caractérise de nombreux peuples, parmi lesquels les chattes, les chérusques, les suèves ou les gothons. Ces notices ne composent pas le portrait homogène d'une nation allemande avant la lettre. Elles dessinent au contraire une mosaïque de communautés dont les territoires, les alliances et les différences de statut demeurent mouvants. Certaines sont décrites par leur discipline militaire, leur puissance, leur isolement géographique ou leurs pratiques distinctives. Cette diversité est essentielle pour comprendre la logique romaine des frontières. Rome fait face non à un adversaire unique, mais à des groupes capables de s'unir ponctuellement ou de se combattre entre eux. Le texte conserve ainsi un intérêt historique pour la géographie politique du nord de l'Europe, tout en restant tributaire des limites de l'information antique. La réception ultérieure de la Germanie a parfois isolé certains passages afin de soutenir des récits identitaires ou nationalistes. Une lecture rigoureuse doit résister à cet usage. Tacite ne fournit ni une origine certaine des peuples modernes, ni un fondement à une essence collective immuable. Il offre un document romain situé, marqué par les préoccupations stratégiques et morales de son auteur. Sa richesse vient précisément de cette rencontre entre connaissances partielles, regard impérial et diversité réelle des populations frontalières. En conclusion, la Germanie convient aux lecteurs de littérature latine, aux étudiants en histoire romaine, ainsi qu'à toute personne intéressée par la fabrication antique de la figure du barbare. Sa brièveté en fait une porte-entrée accessible vers Tacite, mais sa densité demande une lecture lente et contextualisée. Le bénéfice intellectuel principal consiste à apprendre à lire un document ancien sur deux plans comme source relative au peuple établi au-delà du Rhin et comme discours romain, sur la morale, la frontière et le pouvoir. La version bilingue est particulièrement utile aux lecteurs de latin, qui peuvent confronter la traduction à une prose célèbre pour sa concentration et ses effets de contraste. Pour les non-spécialistes, les notes et le cadre éditorial des belles-lettres facilitent un examen attentif sans masquer les difficultés du texte. Par rapport à une histoire générale des Germains ou à une synthèse archéologique moderne, le livre se distingue par son caractère de témoignage direct sur le regard romain. Il ne livre pas une vérité transparente sur les populations décrites, et cette limite est elle-même instructive. Par rapport aux autres ethnographies antiques, il se singularise aussi par la force de sa visée critique. La Germanie lointaine devient un révélateur des inquiétudes de Rome. Lu avec prudence, ce court traité éclaire autant les mécanismes de la représentation impériale que les enjeux militaires et culturels de la frontière septentrionale. Si vous souhaitez soutenir Tacite, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!